approche philosophique de la personne par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 22 décembre 95, 10e conférence.
Une petite question. Le jugement d'existence étant une formalisation par l'esprit d'une réalité. Ah non, pas le jugement d'existence. La question, qu'est-ce que l'être ? C'est un combien ? Le jugement d'existence n'est pas une formalisation. C'est l'intelligence qui directement saisit la réalité. C'est l'aspect naturel de l'intelligence. Mais que l'abstraction et le concret regardent tous les deux la même réalité. Ce même jugement d'existence dans son double mouvement de ce qui est à l'être, n'est-ce pas la voie royale pour découvrir l'être en acte par-delà notre abstraction? Oui, c'est un petit peu complexe, alors je ne veux pas répondre à ça. Le jugement d'existence me met en contact avec l'être en acte, c'est sûr. Mais l'intelligence peut saisir ensuite non plus l'être en acte concret, mais l'être en acte en tant qu'il est le principe selon la fin de ce qui est. Mais c'est le passage de ce qui est visible à l'invisible. Philosophie implique ce passage du visible à l'invisible, sauf le positivisme, qui n'accepte que le visible. Le positivisme est toujours en contradiction avec le langage, parce que nous parlons de l'universel, et l'universel est invisible. Si j'étais logique avec ma position de positiviste, je ne pourrais plus parler. Et je ne devrais plus parler. Parce que la parole ne se mesure pas. Mais il y a une contradiction dans le positivisme. Il y a dans le positivisme un a priori affectif, comme dans toutes les idéologies athées. Ça, je l'ai étudié, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Toutes les idéologies athées impliquent un a priori affectif. Et l'a priori affectif, c'est qu'on ne veut pas que Dieu existe. Je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Parce que je ne peux pas prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Puisque je ne sais pas ce qu'il est. Alors quelque chose, je ne sais pas ce qu'il est, je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. Mais, alors c'est l'a priori affectif. La philosophie lutte contre tout a priori affectif. Parce que tout priori affectif limite ma recherche de vérité. C'est pour ça que c'est si pas commun d'être philosophe. Comme c'est pas commun d'être homme. Il faut bien le dire. C'est la même chose. La recherche de la vérité est une chose difficile. Parce qu'elle implique tout le temps, un désir d'aller plus loin. Alors, je continue un instant sur l'amour d'amitié. Je crois qu'aujourd'hui, le philosophe doit être très attentif à ça. Parce que si la science a beaucoup augmenté pendant ce 20e siècle, je ne sais pas si l'amour d'amitié a augmenté autant. Je sais que c'est différent, hein, parce que la science, c'est la raison, c'est pas la sagesse. L'intelligence, dans ce cas-là, d'ultime, aboutit à une sagesse. Alors elle peut je suis de l'ami. L'amour d'amitié respecte l'ami tel qu'il est et ne veut pas le transformer tel que je désire qu'il soit. Je l'aime et je désire qu'il soit de plus en plus fidèle à ce qui pour lui est son bonheur, sa fin, sa vraie fin, sa véritable fin, qui développe en lui ce qu'il y a de plus grand, de plus noble. Alors j'essaie de l'aider à comprendre cela, mais je respecte ce qu'il est. C'est très important, le réalisme qui existe dans l'amour d'amitié. L'ami, c'est l'autre que je respecte. Et je ne l'aime que dans la mesure où je le respecte. Et c'est dans la mesure où je l'aime, je le respecte. C'est très important, cela. De découvrir dans l'ami sa dignité de personne. Et de respecter dans l'ami sa dignité de personne. Si je ne respecte pas sa dignité de personne, l'amour que j'ai pour lui n'est pas véritable, parce que ça l'abîme. L'amour regarde l'autre dans ce qu'il est le plus profondément et le plus vrai. Alors la vérité de l'amour d'amitié, c'est d'aimer l'autre pour lui-même, dans ce qu'il a d'unique, dans ce qu'il a de tout à fait personnel, dans ce qu'il a de tout à fait individuel. C'est aimer en profondeur ce qu'il y a de plus intime en lui, de plus personnel en lui, de plus profond dans sa finalité. Et si je ne suis parfaitement une personne humaine que quand j'ai découvert ma finalité, comprenons que grâce à l'amour d'amitié, je découvre ma première finalité de ma personne humaine. La vérité, c'est la fin de mon intelligence. Ce n'est pas la fin de moi en tant que personne humaine. Mais c'est un élément essentiel pour découvrir ma finalité. C'est dans ce sens-là que c'est la structure qui me permet d'aller jusqu'au bout de l'amour d'amitié. C'est important de saisir cela. Et alors là, on situe, autant qu'on le peut, la grandeur de la recherche de la vérité, la noblesse de la recherche de la vérité. Et je situe en même temps ma capacité d'atteindre ma fin. C'est mon ami, c'est mon bien, c'est ma fin. La première finalité de l'homme, c'est dans l'amour d'amitié. Ce n'est pas la dernière finalité. Quand j'aurai découvert, ce que nous verrons ce soir, l'existence de Dieu, à ce moment-là, j'atteins une finalité plus profonde qui ne supprime absolument pas cette finalité de l'amour d'amitié qui lui permet d'aller plus loin. Donc, je note pour que vous compreniez bien, je note la personne humaine implique premièrement l'autonomie, deuxièmement la recherche de la vérité. Troisièmement, la capacité d'aimer d'un amour d'amitié. C'est, je crois, ces trois éléments. Alors, comparons toujours à Charles Audier, autonomie, que c'est la structure de ma personne. La vérité vous libérera de toute angoisse. Et la valorisation, la capacité d'aimer me valorise. C'est évident que c'est mon ami qui me valorise. Quand je suis auprès d'un véritable ami, quelqu'un que j'aime et qui m'aime, il me valorise. Parce qu'il me fait comprendre que je suis capable de le finaliser. Et donc de l'achever. Il n'y a rien de plus grand. Donc, voyez, les trois dimensions psychologiques, je les retrouve au niveau recherche métaphysique du je suis. Avec la différence, c'est qu'ici, je vois la finalité. Et je précise la finalité, c'est beaucoup plus concret. Ce n'est pas les sentiments du moi, c'est la réalité profonde de ma personne humaine qui connaît son autonomie, qui recherche la vérité et qui aime et qui est capable d'aimer. La quatrième dimension, c'est la capacité d'ordonner mon capital de vie. Ce qu'on appelle en philosophie ma prudence. La vraie prudence. Je suis capable d'ordonner mon capital de vie. Oui, il y a une attitude particulière qui fait que la prudence me donne cette possibilité. La prudence, qu'est-ce que c'est? On comprend que les anciens disaient que c'est la sagesse pratique. Avec la prudence, est impliqué le point de vue de la justice. Il n'y a pas de prudence sans l'acquisition de la justice, de la force, de la tempérance. Vous allez tout de suite comprendre. La prudence implique et est en connexion. Il n'y a pas de vraie prudence sans justice, sans force, sans tempérance. Ce qu'on a appelé d'une façon traditionnelle les vertus cardinales. Et c'est très curieux qu'on retrouve les vertus cardinales dans toute philosophie éthique. Même le marxisme. C'est le patrimoine, j'allais dire, œcuménique de la philosophie pratique. Alors ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que l'exercice de l'amour d'amitié, l'exercice de l'amour d'amitié, pas la capacité, mais l'exercice de l'amour d'amitié, réclame la prudence, réclame la justice, réclame la force, réclame la tempérance. Parce que s'il n'y a pas la prudence, la justice, la force et la tempérance, vous êtes dans l'incapacité d'exercer l'amour d'amitié à l'égard de votre ami. Si votre ami, que vous dire, oh, tu es mon ami, bon, on va vivre ensemble. L'exercice d'amitié, on vit le plus possible ensemble. C'est le propre de l'exercice d'amitié d'amitié. Et que vous savez que l'ami n'a aucun sens de votre respect. Il vous marche toujours sur les pieds. Il vous bouscule. Il ne vous considère pas du tout dans votre dignité de personne. Il n'y a pas de justice. votre ami n'a aucune force, si votre ami n'a aucune tempérance, il se jette toujours sur les plus gros morceaux et les prend. Et il les prend pour lui, qu'il y a en lui une capacité extraordinaire de tout ramener à lui. Un égocentrisme formidable. Vous ne pouvez pas vivre avec une baleine qui vous mange tout le temps. Ou un boa qui mange le petit lapin vivant. Vous ne pouvez pas vivre avec. Impossible. Et alors ça fera un drame. On croit qu'on s'aime. Oui, on s'aime. C'est vrai. Mais ce n'est pas incarné. Et ça ne s'incarne pas. Alors le conditionnement humain vient tuer la finalité. Et le conditionnement humain, quand il est passionnel et qu'il n'y a rien qui le mesure, qu'il n'y a pas de prudence pour mesurer la passion, orienter la passion. S'il n'y a pas la prudence, alors c'est sûr, la passion devient véhémente au point de vue temporel, au point de vue de la jouissance. Elle devient véhémente au niveau de l'accaparement. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de possibilité de vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit regarder que c'est pour pouvoir exercer l'amour d'amitié qu'il est nécessaire d'acquérir progressivement cette domination sur soi. Cette domination sur soi. Qu'est-ce qui nous permet de nous dominer sur nous-mêmes? C'est notre prudence. Notre prudence est là pour mesurer en vue de la fin toutes les capacités qu'on a. Chacun d'entre nous, on a des capacités vitales extraordinaires, des ressources étonnantes. Si on a été en face d'un tyran, tout ça s'est replié. Mais si on est en face d'un ami, tout ça se développe. Et alors, il y a ce développement merveilleux au niveau sensibilité, au niveau affectif, au niveau passionnel. La passion doit être un rayonnement de notre personnalité, mais une passion au service de l'amour et de l'amour spirituel. Une passion qui respecte l'autre, une passion qui permet le don. Parce que le don spirituel réclame cette incarnation dans notre sensibilité, dans notre affectivité. Oui. L'amour d'amitié implique nécessairement la passion, mais une passion transformée par la prudence, une passion qui maintient la lucidité. Une passion qui n'est plus accaparante. Vous savez bien, au point de vue psychologique, quand on distingue l'amour oblatif et l'amour captatif. L'amour oblatif, c'est l'amour spirituel. On aime en se donnant. Et l'amour spirituel implique toujours un don. Un don de nous-mêmes. Un don de notre personne. Un don de tout ce qui est nôtre. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Donc un don qui rayonne pour supprimer, ou plus exactement pour endiguer la passion du concupiscible. Et la passion du concupiscible, c'est toujours pour moi. L'amour du concupiscible, j'aime le bon vin. Non pas parce qu'il faut que le vin soit bon, mais parce que le bon vin, je peux le boire et qu'il m'est agréable. Donc je l'aime pour moi. point de vendu cher, il est fait pour être goûté. Quand vous goûtez du bon vin, vous finalisez le vin. Ben, s'il coûte cher, c'est embêtant. Mais c'est pas sa finalité. Le vin n'est pas fait pour enrichir. Le vin est fait pour réjouir le cœur de l'homme et le cœur de la femme. C'est fait pour ça, mais la finalité, vous respectez. Tandis que quand vous faites que le vin devient quelque chose qui vous enrichit, je comprends si vous avez besoin d'être enrichi, mais au fond, c'est un détournement de valeur. C'est évident, il faut bien que vous gagniez, vous avez travaillé. Et c'est le travail, vous avez fait du très bon vin, c'est normal, il vous a coûté tant, c'est normal. Mais c'est pas, vous ne travaillez pas pour vendre cher votre vin. Vous travaillez pour que le vin soit bon. Et vous deveniez dans cet ordre-là un artiste merveilleux comme vignoble, comme quand vous faites la cuisine. Vous faites la cuisine pas pour empoisonner. Vous faites la cuisine pour que ce soit bon, que ce soit agréable, que ça éveille l'appétit. Et vous ne travaillez pas premièrement pour gagner de l'argent. Je vous ai déjà dit, on le retrouve ici. Vous voyez, c'est très important de voir l'enracinement dans les passions de ma personne humaine. C'est pour ça qu'il y a là quelque chose de très particulier. Vous voyez, les trois premiers moments, structure vraiment l'amour d'amitié et le finalise. Ici, on est en face d'une matière, c'est le corps, qu'il faut rendre amicabilis, aimable. Un homme vertueux est plus aimable qu'un homme non vertueux. Mais il faut que la vertu ne soit pas aimée pour elle-même. Il faut que la vertu soit aimée pour rechercher la vérité, pour un amour d'amitié. Une vertu qui est recherchée pour elle-même, vous savez, celui qui est vertueux pour donner l'exemple à tout le monde, devient assommant. Parce que c'est une loi ambulante. C'est le surmoi ambulant. Je suis là pour vous apprendre ce que c'est que la vertu. Suivez-moi, vous serez toujours dans la vertu. Vous savez, quelquefois, chez les automobilistes, on voit ça. Je suis amusé une fois avec un ami pour énerver les mobilistes. C'est pas très mal, toi. Mais c'était lui qui le faisait. Il faut leur donner un... Alors, c'était très curieux, parce que ça les énervait de voir une auto qui les dépassait. Alors que l'auto était beaucoup plus puissante que la leur. Donc c'était normal. Si on est intelligent comme une petite voiture, ben on laisse les autres passer devant. Ah non, non, impossible. Parce que on devait donner tant à l'heure, et qu'en le dépassant, il faisait un peu plus, et qu'il continuait un peu plus. Donc il était en dehors de la loi. Alors il devenait uniquement, il voulait à tout prix le dépasser pour lui apprendre ce que c'était que la loi. Mais ça, c'est la vertu incarnée. Et on ne cherche plus que la vertu. C'est la loi incarnée. Il faut comprendre qu'à partir de là, cette prudence, cette vertu de justice, cette vertu de force, cette vertu de tempérance sont tout entières en vue de la capacité d'aimer. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes n'aiment pas la vertu? Parce qu'on a voulu montrer la vertu pour la vertu. Alors il y a une réaction. C'est normal. La vertu demande d'être finalisée par l'amour d'amitié. On est vertueux pour aimer. Et pour pouvoir aimer d'une façon vraie. S'il n'y avait pas la prudence, la justice, la force et la tempérance, les vertus cardinales. ne pourrait pas aimer vraiment un autre et se donner à lui et être généreux dans l'amour. Parce que les passions livrées à elles-mêmes sont toujours accaparantes. Les passions, c'est toujours quelque chose qui fait que je ramène à moi. Il y a des personnes qui ont un concupiscible très développé. Elles n'aiment que ceux qui leur donnent de la joie, de la jouissance. Elles ne regardent absolument pas l'autre. Il suffit de les regarder manger. Je connaissais un vieux père maître dominicain. J'avais été un tout petit moment père maître chez les dominicains. Un vieux père maître dominicain qui m'avait donné ce conseil. Quand vous voyez des jeunes qui demandent d'entrer, pas commun de voir s'ils ont la vocation ou pas la vocation. C'est très simple. Invitez-les à midi. Alors il y avait toujours la table des autres, comme chez les bénédictins, qui est au milieu, sous le nez de l'abbé. C'est très gênant, on n'a plus d'appétit, n'est-ce pas, c'est vrai. Alors, lui disait, invitez-les au repas. Vous mettez juste en face de vous et regardez comment ils mangent. Vous verrez s'ils ont la vocation. Ça, vieille formule, je ne fais jamais ça. Ça c'était la vieille formule. Vous voyez, on mettait les vertus morales avant tout. Et c'est vrai, c'est quand on est en face d'un bon repas que vous voyez tout de suite s'il y a un tout petit peu de vertu morale. C'est vrai, autrement la concupiscence s'en donne avec leur joie. Oh, c'est bon, alors on prend des portions au-dessus de nos yeux, n'est-ce pas ? C'est bon, et puis le reste, bon. Donc on voit tout de suite s'il y a les vertus. Vous voyez ? Et dans le temps, c'était un critère. On acceptait au noviciat que des gens vertueux. Aujourd'hui, si on acceptait au noviciat que des gens vertueux, il n'y aurait plus personne. Aujourd'hui, on regarde s'il y a une capacité de recherche de la vérité, s'il y a une capacité d'aimer. L'exercice, on verra. Puisqu'après tout, le noviciat est fait pour éduquer et pour apprendre. Ces vertus, on ne les a pas avant. C'est vrai, aujourd'hui, c'est très rare, comme vous voyez. C'est très beau. Les vraies vertus ordonnées à l'amour, c'est très grand. C'est l'incarnation de l'amour dans notre pauvre corps humain. Et quand il y a les vertus diminuent le conditionnement du corps. Les vertus ennoblissent nos passions et donc notre corps, puisque les passions sont dans notre corps. Mais c'est très difficile de comprendre ça. Il faut les avoir pour le comprendre. Ça ne veut pas dire que je les ai, hein, mais il faut les avoir pour comprendre que les vertus donnent quelque chose de particulier à notre corps, à notre sensibilité, à notre regard, à notre visage. C'est vrai, ça. Mais pour acquérir les vertus, il faut aller au-delà des vertus. Capacité d'aimer. Recherche de la vérité. Il faut beaucoup de force pour rechercher la vérité. Il faut beaucoup de prudence pour rechercher la vérité. Il faut beaucoup de prudence pour être capable d'aimer, et ainsi de suite. Alors, réfléchissez maintenant un instant, toujours avec Charles Audier. C'est curieux. C'est l'enracinement de ces trois qualités du sentiment de moi. Vous avez la valorisation et le point de vue de l'auteur.
En colère
devant des mensonges. On ne peut pas supporter le mensonge. Parce qu'on cherche la vérité. Quelqu'un qui a le moins le sens de la vérité, mais beaucoup plus le sens de l'amour d'amitié, ne peut pas supporter le mensonge, le manque de fidélité. Il se met en colère devant quelqu'un de faible qui ne peut pas se défendre tout seul. Vous voyez, il faut bien saisir ça, que la prudence personnelle va s'achever dans la prudence politique. Et la prudence politique va de fait impliquer en plus, et alors nous aurons la sixième dimension. Donc cinq. Non, la cinquième dimension, pardon. La sixième, c'est le point de vue du corps qu'on a vu hier. La sixième dimension de la personne humaine, si il y a la prudence, il y a l'art. De la personne humaine, la capacité de transformer notre milieu à la fois physique, vital et même psychique. Il y a en moi, dans mon je suis, cette capacité de transformer l'univers, de le modifier, de le rendre plus humain, de lui donner une physionomie qui soit plus en conformité avec mon corps. Oui. Si je suis dans un lieu extrêmement froid, dans le grand nord du Canada, je dois me défendre contre le froid. Il y a un art pour se défendre contre le froid. Et ceci fait partie de la personne humaine. Quelqu'un qui serait absolument incapable de se défendre en face du froid, lui manquerait un peu d'art. L'art utile. Donc c'est le vêtement. C'est l'abri. Construire un abri. Se chauffer. Créer un milieu vital, humain, ça fait partie de la personne humaine. L'escargot naît avec sa maison, l'homme naît sans maison. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Oui, si chacun d'entre nous avions, si on naît comme escargot avec notre petite maison, on n'aurait pas besoin de vêtements, pas besoin de se chauffer, rien. Ça, c'est Platon qui fait cette remarque. Platon fait cette remarque en disant « Les animaux naissent avec une chevelure. » C'est vrai, très vite. Puis ils arrivent tout de suite à courir. Ils n'ont pas besoin d'art parce qu'ils naissent dans une espèce de connaturalité avec le milieu dans lequel ils sont. C'est extrêmement curieux. Tu vois, c'est une sélection qui se fait automatiquement. Il y a des chats qui ne peuvent pas vivre dans les pays trop froids, ils s'en vont à toute vitesse. Il leur faut une chevelure spéciale, n'est-ce pas, pour vivre dans tel pays. Et alors Platon fait cette remarque, l'homme naît sans aucun abri. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a besoin de sa mère. Même après la naissance, créer un milieu. Et donc, il y a l'art. L'art est fait pour cela. Pour permettre au tout petit enfant de croître. La première éducation maternelle. Et puis, l'éducation après. Tous les milieux. Le milieu biologique. Le milieu psychologique. Le milieu culturel. Il a toujours besoin de l'art pour pouvoir être pas. prudence, c'est gouverner mon univers. L'art, c'est gouverner, dans la mesure du possible, ce qui m'entoure, mon milieu vital. Mon milieu vital immédiat, mon milieu vital un peu plus lointain. Le petit village où je suis, la maison que j'habite. Et puis, toujours plus loin, le point de vue du pays, le point de vue de la nation, et aujourd'hui interplanétaire. On agit sur le milieu toujours plus vaste. Et c'est l'art qui fait ça. Alors c'est toute la dimension artistique qui est nécessaire à la personne humaine. Alors évidemment, on n'est pas tous des grands artistes. Le grand artiste met en pleine lumière cette cinquième dimension, quelquefois au mépris de la prudence, quelquefois au mépris de la recherche de la vérité, quelquefois au mépris de la capacité d'aimer. Une jeune fille en face d'un grand artiste est amoureuse. Attention, l'artiste sera peut-être moins amoureux d'elle que lui d'elle. Parce que l'artiste va peut-être l'épouser pour son œuvre et non pas pour elle. Ça arrive. Tous connus de ces cas assez extraordinaires de voir les épouses d'un grand artiste ou l'épouse d'une grande artiste. Parce que c'est analogue. L'artiste vit pour son œuvre. Or, est-ce que l'œuvre finalise la personne humaine? Alors ça, c'est la grave question. L'œuvre ne finalise pas la personne humaine. Elle est anti-destin, comme dit Malraux. Elle ne finalise pas la personne humaine. Je n'ai pas le droit de finaliser ma vie pour être un poète. C'est très agréable quand on a 25 ans. Mais quand il continue d'avancer dans la vieillesse, le poète ne sera pas nourri par son œuvre. Non. Il est ordonné à l'œuvre. L'œuvre est quelque chose de très grand. Ça lui donne une certaine joie de réaliser ça. Ça lui permet d'avoir un milieu de vie plus agréable, mais ça ne peut pas le finaliser. Il y a quelque chose là de très important à voir. La grandeur de l'art et la limite de l'art, tandis que l'amour d'amitié finalise, parce que je touche une personne, tandis que dans je fais quelque chose, je réalise quelque chose, et l'œuvre que je fais est toujours moins grande que moi. Elle a quelque chose de plus grand, c'est qu'elle ne meurt pas, tandis que l'artiste comme homme mourra, tandis que l'œuvre demeurera. Ben, tous les Grecs qui ont construit le Parthénon sont morts. Et le Parthénon existe encore. Mais il commence à se détérioriser. Vous voyez, c'est là où on voit la pollution. Hein. Des bâtiments qui jusqu'ici étaient restés intacts commencent à se détérioriser à cause de la pollution. Le Parthénon, on a très peur. À Nazareth, le lieu, la grotte de Marie, de l'Annonciation, elle commence à se détérioriser à cause que l'air est tellement pollué qu'il attaque non seulement les poumons humains, mais l'homme s'adapte plus facilement que la pierre. La pierre gémit plus que l'homme. C'est très curieux, parce qu'elle a beaucoup de peine à s'adapter, la pierre. Tandis que l'homme est un vivant qui s'adapte. Et ce qu'on disait, tous ceux qui sont venus venu des camps de concentration. Il disait, on a survécu. Un animal n'aurait pas survécu. Mais l'homme, par son esprit, a une souplesse étonnante d'adaptation. Si son esprit vit. Mais c'est pas à cause de ça qu'on doit le faire gémir. Mais il a une souplesse énorme. Il y a des tas de choses qu'il peut supporter grâce au moral. Mais c'est du reste ce que disent les médecins. Quand ils voient des cas extrêmes, tout dépendra du moral. Le point de vue moral, donc les vertus morales et la prudence et la capacité d'aimer donnent une force énorme pour résister à des cas limites, des situations limites. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est donc de voir ces cinq dimensions et la sixième, le corps, conditionnement spirituel. Substantiel de ma personne humaine au niveau des passions, ça c'est net, au niveau de l'art et au niveau de l'aspect le plus spirituel et le plus profond qui est en moi. Voyez bien ce petit tableau, hein, parce que ça vous aide à comprendre les diverses dimensions de la personne humaine. Et si, on verra ce soir, parce que ça nous prendra trop de temps, il faut laisser ce petit tableau. On verra comment ce petit tableau implique toutes les parties de la philosophie que nous avons eues. Elles sont présentes. Ce qui montre bien que la recherche de la personne humaine est au point de départ de la philosophie et au terme de la philosophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie.